Bonjour et soyez les bienvenus en ce vendredi 22 juin 2018. Hélène Denis qui est avec vous à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est la première journée complète de l'été puisqu'il est arrivé hier à 6h07 et non 10h07 comme j'avais entendu dans les parages, ce qui m'avait induite en erreur, mais 6h07, c'est l'heure réelle de l'arrivée de l'été. Déjà derrière nous, arrivée-là. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, le 22 juin, est-ce qu'il y a des journées internationales de quelque chose? Hier, c'était la journée de la lenteur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont qui se sont laissés inspirer par le thème dans cette société qui va vite.
J'en ai pas croisé, moi, sur la route, des gens qui
non.
faisaient l'éloge de la lenteur, mais voilà.
Vous êtes fait dépasser.
Oui, mais ça, vous savez, quand on n'est pas pressé, quand on aime la vie, on
prend son temps. Et que vous faites l'éloge de la lenteur vous-même.
Aussi. J'ai pas le choix avec le bolide que j'ai. Non. Alors, je peux commencer par 1772 en Angleterre. C'est l'adoption d'une première loi d'abolition de l'esclavage en Angleterre. 22 juin 1815, quatre jours après la défaite de Waterloo, Napoléon abdique pour la seconde fois. Il sera déporté à Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud. Nous avons en 1869 le gouvernement fédéral achète les terres de la compagnie de la baie du Tson dans l'Ouest canadien. Nous avons en 1908, un incendie détruit quelques 200 bâtiments à Trois-Rivières. 1960, après 16 ans au pouvoir, ou après 16 ans du pouvoir de l'Union nationale, les libéraux de Jean Lesage gagnent les élections au Québec. 1976, à Ottawa, par 133 voix contre 125, les communes abolissent la peine de mort. Le Vatican en 1980 accorde la béatification aux Canadiens Kateri Tekakwitha, François de Montmorency Laval et Marie Guyard. 1990 à Terre-Neuve, le premier ministre Clyde Wells omet de forcer la législature à voter sur l'entente constitutionnelle du lac Meech. Au Manitoba, le député Elijah Harper avait déjà fait échouer le projet. En 2000, toujours en 22 juin, deux policiers de la Sûreté du Québec sont condamnés à 12 ans et 9 mois de prison ferme pour obstruction à la justice en faveur de la fille de l'un d'eux qui avait conduit en état d'ébriété. La maison Sinar rembourse à Téléfilm Canada 2,6 millions en 2001 obtenus en fraude par des productions non admissibles. Et en 2014, trois évadés par hélicoptère du centre de détention de Québec le 7 juin sont arrêtés à Montréal. Et une petite dernière, 1990, le 22 juin, Bernard Pivot présentait en France la dernière émission de son émission de télévision Apostrophe. Voilà. Oh, et pour ce qui est des naissances, si vous en voulez quelques-unes, nous avons Samuel Billy Wilder, le cinéaste américain, qui est né en 1906. Jean Besseret, qui est né en 1936, un 22 juin. Et Meryl Streep, en 1949. Et le 22 juin 1993, décédait l'acteur Michel Noël, Capitaine Bonhomme.
Oui.
Fred Astaire, en 1987. Et Judy Garland, l'actrice et chanteuse, qui était née en 1922, nous a quittés un 22 juin 1969.
Merci, mon cher.
Ça fait plaisir.
À la une de la presse, prostitution juvénile à Laval, une offensive tous azimuts. Après une pause de 2 ans, la police de Laval a annoncé hier la reprise des rafles contre les abuseurs qui se procurent des services de prostitution juvénile sur son territoire. Une nouvelle étape dans la guerre lancée pendant ce qu'on a appelé la crise des fugues dans l'île Jésus. La chronique de Patrick Lagacé à la défense de Gaétan Barrette. Élection provinciale 2018, 100 villes, 100 choix. Aujourd'hui, notre tournée dans Lanaudière. Art, cinéma, la chute de l'Empire américain, duo inattendu, entrevue croisée avec Denis Arcand et Marie-Pierre Morin. et pose chic dans la garde-robe de Marie-Pierre, toujours Marie-Pierre Morin. Je commence avec une nouvelle qui donne de l'espoir. C'est rare, mais ici, on parle d'une recherche du CHUM, de l'insuline, pour retrouver la vue. On connaissait les vertus de l'administration d'insuline pour aider les diabétiques à contrôler leur taux de sucre dans le sang. Mais grâce aux travaux d'une équipe de chercheurs du CHUM, le même traitement pourrait désormais permettre de combattre le glaucome. Explication. Simon-Olivier Lorange. Deux percées majeures. Adriana Di Polo cache mal son enthousiasme. Voilà maintenant une décennie que la chercheuse en neurosciences du Centre de recherche du CHUM étudie les neurones de la rétine et du nerf optique, et par extension le glaucome. Cette maladie, première cause de cécité irréversible du monde, se développe lorsqu'une pression élevée dans l'œil érode les cellules nerveuses, empêchant à terme l'information, donc les images, de voyager de l'œil au cerveau. L'équipe de Mme Di Polo a toutefois annoncé hier deux percées majeures dans le traitement de la maladie. Elle a démontré non seulement que les dendrites des neurones, nous y reviendrons, restez avec nous, avaient la capacité de se régénérer, mais en outre que cette régénérescence était stimulée par l'insuline, dont l'administration est un traitement bien connu des diabétiques. Tous les neurones du corps humain sont constitués d'un corps cellulaire avec, à une extrémité, l'arbre dendritique aux milliers de ramifications. Les dendrites et à l'autre extrémité, l'axone, longue fibre nerveuse. Pour résumer, l'information est captée par les dendrites et chemine ensuite par l'axone, à la manière d'un courant électrique vers les dendrites d'un autre neurone et ainsi de suite. Jusqu'à tout récemment, la recherche sur le glaucome avait été presque entièrement consacrée à l'érosion de l'axone. On a donc décidé de se concentrer sur ce qui se passe de l'autre côté chez les dendrites, qu'on ne connaissait pas du tout. Il y a 10 ans, personne ne s'y intéressait, dit la chercheuse Adriana Di Polo. La chercheuse a alors constaté que très tôt, après une lésion de l'axone, les dendrites se rétractaient de manière très marquée, rompant les connexions avec les autres neurones ou synapses. Cela provoque une interruption majeure du flux d'informations, résume-t-elle. À la lumière de ce constat, on a décidé, peut-être pas folle, mais on a eu une idée, peut-être pas folle, mais risquée, raconte la chercheuse. Cette idée, c'était de recourir à l'insuline. Des souris chez qui on a provoqué la rétraction des dendrites en ont reçu par l'entremise de gouttes dans les yeux ou d'injections dans l'abdomen. Et le résultat est stupéfiant. En quelques jours à peine, les dendrites se sont régénérées presque entièrement et les neurones se sont reconnectés entre eux, et ce, même lorsque l'axone était sérieusement amoché. Nous sommes les premiers à publier sur la régénérescence, s'enorgueillit Adriana Di Polo, en référence à l'article paru hier dans la prestigieuse revue britannique Brain, publié aux presses de l'Université d'Oxford. L'entrée en jeu de l'insuline est d'autant plus opportune que son usage est déjà autorisé par Santé Canada, souligne Mme Di Polo. Et autre bonne nouvelle, les tests minutieux sur des souris menés par Jessica Agostinon, post-doctorante et première auteure de l'étude, ont révélé qu'administrer de l'insuline dans un contexte n'avait pas eu d'effet négatif sur le taux de sucre dans le sang des cobayes. Dans l'attente fébrile d'amorcer les études cliniques d'envergure sur des humains, l'équipe de chercheurs travaille à développer un composé analogue à l'insuline qui pourrait faire l'objet d'un brevet et attirer ainsi les investisseurs. Si Adriana Di Polo évite d'affirmer que ce traitement guérira ultimement le glaucome pour de bon, elle avance tout de même que les patients qui en sont atteints pourraient retrouver, au moins en partie, la vue qu'ils ont perdue. Et cette découverte fait déjà rêver, car elle pourrait s'appliquer à d'autres maladies neurodégénératives, par exemple l'Alzheimer. Le ministre des Transports, André Fortin, a annoncé que le gouvernement enverrait une mise en demeure au syndicat des grutiers pour réclamer tout dommage généré par leur grève illégale. Dans un bref communiqué diffusé vendredi matin, M. Fortin a jugé inacceptable que les grutiers désertent leurs chantiers depuis une semaine. Les dommages liés au retard sur les chantiers leur seront réclamés, a-t-il assuré. La vaste majorité des grutiers ont défié l'ordonnance du tribunal administratif du travail qui les a sommés de cesser leur grève illégale. Ils ne sont pas retournés sur les chantiers vendredi matin, selon la Commission de la construction du Québec. Le tribunal avait accueilli jeudi soir la demande d'ordonnance provisoire déposée par les CCQ, Commission de la construction du Québec, pour faire cesser la grève. Selon la décision, l'urgence d'agir est justifiée car il apparaît évident que les chantiers de construction subissent des impacts importants en lien avec cet arrêt de travail. Mélanie Malenfant, porte-parole de la CCQ, comprend très bien le geste du gouvernement. Ça cause aussi des torts aux contribuables parce que tous les retards sur les chantiers, ça va probablement occasionner des coûts qui sont importants pour le gouvernement, a-t-elle soutenu. Guillaume Houle, porte-parole de l'Association de la construction du Québec, a indiqué que son organisation invitait tout entrepreneur affecté par ces moyens de pression à déposer une plainte auprès de la CCQ et à aviser les autorités policières. C'est dommage, on aurait aimé que les syndicats participent davantage. En milieu de soirée jeudi, la FTQ Construction avait relayé la décision du tribunal dans un communiqué de presse dans lequel elle rappelait aux salariés grutiers leur obligation d'offrir immédiatement leurs prestations normales et habituelles de travail. Les grutiers ont commencé une grève lundi dernier dans l'ensemble des chantiers du Québec et la grève est illégale puisque la convention collective qui lie les associations patronales et les organisations syndicales est en vigueur jusqu'en 2021. Le litige prend sa source dans les changements qui ont été apportés à la formation des grutiers le 14 mai. Les grutiers mécontents allèguent que les changements apportés nuiront à leur propre sécurité et à celle du public. Mettant fin à une interdiction unique au monde, l'Arabie saoudite autorisera à partir de dimanche les femmes à conduire, une réforme historique pour le royaume ultra-conservateur, mais entachée par des accusations de répression croissante contre les militants des droits de l'homme. Annoncée en septembre 2017, cette décision, inspirée par le prince héritier Mohamed Ben Salman, fait partie d'un vaste plan de modernisation du riche pays pétrolier. Elle met fin à une interdiction devenue le symbole du statut inférieur des Saoudiennes, décriée à travers le monde. Des milliers de conductrices pourraient prendre le volant dimanche, une journée attendue depuis longtemps par les Saoudiennes et qui, pour beaucoup, ferait entrer dans une nouvelle ère la société dans ce royaume régi par une version rigoriste de l'islam. Coutinho et Neymar dans le temps additionnel ont permis au Brésil d'éliminer sur le fil le Costa Rica 2-0 et de se rapprocher des huitièmes de finale du Mondial 2018 vendredi dans le groupe E du Mondial 2018. Et pour terminer, des travailleurs humanitaires de Médecins sans frontières, MSF, ont eu recours à des prostituées durant leur mission en Afrique, a affirmé la BBC hier, citant des lanceurs d'alerte anonymes dont l'un rapporte que des médicaments auraient été échangés contre des relations sexuelles. Interrogée par l'AFP, l'ONG a dit prendre au sérieux ces accusations qu'elle n'a toutefois pas été en mesure de confirmer et appelé quiconque ayant des inquiétudes à les signaler par les mécanismes de signalement confidentiel de MSF, de manière à ce qu'elle puisse agir. Nous ne tolérons pas les abus, le harcèlement et l'exploitation au sein de Médecins sans frontières, a-t-elle insisté dans un communiqué se disant désolée pour les personnes qui en ont été victimes. Selon la BBC, ces accusations visent des logisticiens et non des médecins ou des infirmiers en poste au Kenya, au Libéria et en Afrique centrale. Oh!
Tu inverses les moments, renverses les choses. Tu renverses les moments, inverses les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Place des autres, tu dis pourquoi sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. De tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien. De nous tu te rappelais de tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien.
Une nouveauté de Gaëtan Roussel, Hope.
À la une du Devoir de ce 22 juin 2018, la face cachée de la gratuité, les beaux dimanches décrétés par Québec suscitent de l'inquiétude dans le milieu. On parle ici des musées ouverts un dimanche par mois au Québec depuis quelque temps, depuis le début du mois de juin. Racisme, les excuses de Barrette ne suffisent pas aux yeux des leaders autochtones. S'il y a quelque chose que je ne suis pas, c'est un raciste, dit Gaétan Barrette. Une première ville au Québec rase tous ses frênes. L'été sera trop long pour les élèves de l'école L'Agora. Quand les arts visuels passent à table au Centre d'art Diane Dufresne, c'est à Repentigny. Un refuge imparfait, l'afflux migratoire actuel pose de nouveaux défis à l'école qui peine à les relever en dépit de la bonne volonté. Offrir l'accès gratuit pour les Québécois au musée un dimanche par mois, c'est une idée phare de la ministre Marie Montpetit et de la nouvelle politique culturelle. Alors que la Société des musées du Québec, SMQ, diffusait jeudi son bilan du premier dimanche gratuit, des critiques fusent du milieu. Cette mesure est un lapin qui sort d'un chapeau à la veille des élections improvisées à des fins électorales, illustre en requérant l'anonymat une personne importante du réseau muséal. C'est une idée citoyenne absolument louable dans l'intention, mais on doit s'interroger sur son application, ses résultats à long terme et ses impacts. Le 3 juin dernier, 65 musées étaient ouverts gratuitement selon le cabinet de la ministre. 16 autres saisonniers s'ajouteront en juillet. La SMQ a comptabilisé pour 45 musées membres ouverts 8722 visiteurs. Plusieurs membres de la SMQ, Société des musées du Québec, anticipent des pertes financières supérieures à ce qui est prévu par le ministère de la Culture, MCC, même s'il s'est engagé à rembourser toutes les gratuités, indique le directeur de la SMQ, Stéphane Chagnon. Il faut considérer les coûts anticipés en ressources humaines pour le personnel supplémentaire requis à l'animation, l'accueil, l'entretien et la sécurité, et des pertes financières anticipées. Nos membres prévoient un déplacement de la fréquentation vers le dimanche, une donnée plus ou moins confirmée par un musée qui a vu la popularité de son samedi précédent et de la semaine suivante fondre. Une autre préoccupation de la SMQ est la baisse potentielle des revenus d'abonnement. Qui aura intérêt à demeurer membre d'un musée quand un des grands attraits, c'est l'accès gratuit en tout temps? Demande M. Chagnon. Est-ce que le MCC dédommagera? Pour l'instant, on ne sait pas. On est en discussion ouverte. Marie-Andrée Chouinard monte en grade. La nouvelle rédactrice en chef du Devoir renouera aussi avec l'éditorial dès la semaine prochaine. Il n'y a pas qu'au Mexique que des masses exubérantes provoquent des secousses sismiques, écrit Brian Mize, directeur du Devoir. Le Devoir ne vibre pas pour la Coupe du monde, mais pour Marie-Andrée Chouinard. Sa nomination à titre de rédactrice en chef a fait trembler d'enthousiasme jeudi le plancher du 1265 Berry. Détentrice d'un baccalauréat en communication, journalisme de l'UQAM, Mme Chouinard a tout fait au cours de sa carrière pour obtenir le poste convoité de rédactrice en chef. C'est une étape naturelle de son parcours qui a commencé en 1996 comme reporter au Devoir. Elle a gravi les échelons pour occuper les postes de chroniqueuse en éducation, d'éditorialiste, de responsable de la page ID et depuis 2013 de directrice de l'information. À ce titre, elle a été impliquée de près dans les efforts de transformation du Devoir, d'abord avec le lancement de notre application tablette en 2014, et ensuite avec le lancement récent de notre application mobile, la refonte de notre site Internet et de notre signature visuelle. Madame Chouinard est la candidate tout indiquée pour succéder à Luce Julien comme rédactrice en chef. Votre bière est sur le point de subir une transformation gouvernementale. Des responsables fédéraux proposent des changements aux normes sur la bière à l'échelle du pays qui élargiraient le nombre d'ingrédients autorisés et forceraient les brasseurs à énumérer chaque ingrédient sur une canette ou une bouteille. Même la définition canadienne de la bière serait modifiée. Ces changements marqueraient une révision majeure des normes sur la bière mises en vigueur il y a plus de 30 ans. Mais elles doivent d'abord faire l'objet d'un processus de consultation publique lancé discrètement il y a quelques jours. Au troisième jour des délibérations au procès de Tony Accurso, jeudi, le jury a demandé de réécouter le témoignage de l'ex-entrepreneur en construction, accusé de fraude et de corruption relativement à un système de partage de contrats à Laval. Les jurés, 5 femmes et 7 hommes, sont tenus d'écouter l'entièreté du témoignage, y compris le contre-interrogatoire de la Couronne, qui s'était déroulé sur près d'une journée et demie. Rappelons que le sort de l'ex-entrepreneur en construction se trouve entre les mains du jury depuis mardi. M. Accurso fait face à des accusations de complot pour corruption, de complot pour fraude, de corruption d'un fonctionnaire et d'aide à commettre un abus de confiance. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations. Dans un nouveau coup de théâtre, Melania Trump s'est rendue jeudi à la frontière avec le Mexique pour rencontrer des enfants sans papier, une visite préparée dans le plus grand secret, tandis que son époux fait face à un barrage mondial de critiques pour avoir séparé plus de 2000 mineurs clandestins. Depuis combien de temps êtes-vous là? D'où venez-vous? Souriante, la première dame est passée de classe en classe pendant un peu plus d'une heure dans un refuge de McCallan, grande ville texane où les enfants lui avaient écrit « Bienvenue » sur un drapeau américain. De l'aveu même du milliardaire, la discrète Melania Trump a joué un rôle dans cette décision qui ne règle toutefois pas la question des plus de 2300 mineurs arrachés à leurs parents depuis la mise en œuvre de sa politique début mai. Alors la décision, c'est donc un décret mettant fin aux séparations qu'il avait lui-même, Donald Trump, encouragé avec sa politique de tolérance zéro face aux clandestins. Si l'opération préparée dans le plus grand secret a réussi son effet choc, elle a été perturbée par les images de la première dame vêtue d'une veste marquée dans le dos des mots « Je m'en fiche complètement, et vous ?» Une faute de goût vu le contexte qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Cela ne l'a cependant pas empêché de porter la même veste à la sortie de l'avion à son retour à Washington. Sa porte-parole a assuré qu'il n'y avait pas de message caché derrière cette inscription. Les professionnels de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANCQ, ont voté à 97 % en faveur d'un mandat de grève qui pourra être exercé dès le 3 juillet, a appris Le Devoir. Les quelques 225 membres du syndicat de professionnels et professionnels du gouvernement du Québec sont sans convention collective depuis le 31 mars 2015. Ses employés, majoritairement des femmes, dénoncent notamment des écarts salariaux importants avec d'autres organismes gouvernementaux à prédominance masculine, et ce, pour des professions identiques. Vous écoutez Le Quotidien des quotidiens et c'est vendredi 22 juin. L'école est finie pour bien des gens. On écoutera d'ailleurs une chanson qui fera un clin d'œil à cet événement. L'école est finie, ou presque, les congés, les vacances qui s'en viennent. Restez avec nous.
Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous sur sa main, seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. Thank you. beaux prix sont remis aux élèves. Tous les discours sont terminés. Sous le préau, l'assistance se lève. Une dernière fois, les enfants vont chanter. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aime.
Et oui, adieu, monsieur le professeur, que nous chantait, accompagné d'enfants, Hugo Frey.
À la une du Journal de Montréal, hockey week-end déterminant pour le Canadien, excitant pour nous et les partisans, dit Marc Bergevin. Chronique d'Yvon Penneau, le DG n'a plus le droit à l'erreur. 5 pages. Monde jurassique, le royaume déchu, notre critique en page 33. Je peux vous dire déjà que le critique accorde 2,5 étoiles à ce film. La folie pour Vlad à Québec. Le tribunal tranche, les grutiers forcés de rentrer. Plus de police sur les routes pour 2 week-ends. La Sûreté du Québec, SQ, va resserrer sa surveillance sur les routes de la belle province durant les longs week-ends de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada, alors que des opérations auront lieu du 22 juin au 2 juillet. Les policiers de la SQ entendent surveiller la vitesse, mais aussi la capacité de conduite affaiblie par l'alcool et la drogue. Le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire au volant seront aussi au menu des interventions. La Sûreté du Québec rappelle qu'il s'agit des principales causes de mortalité sur les routes de la province. Tous les usagers de la route, incluant les motocyclistes, les cyclistes et les piétons, sont invités à partager la chaussée. Alexandre n'est pas un monstre, assure son père. Vêtu de noir et menotté aux chevilles, Alexandre Bissonnette s'est avancé tranquillement vers le magistrat lorsque ce dernier lui a demandé s'il avait quelque chose à dire avant que la page ne soit tournée sur la triste histoire qui s'est inscrite il y a de cela 1 an et demi. Frêle et pâle, Bissonnette a pris la parole doucement, sans document. « Je voudrais réitérer que j'ai honte et que je regrette atrocement ce que j'ai fait. » Je voudrais vous dire que je le regrette depuis janvier 2017, a-t-il dit, ne suscitant aucune réaction dans la salle où des membres de la communauté musulmane prenaient place. Poursuivant dans un court monologue un peu décousu, Bissonnette a versé quelques larmes, puis il a pris un mouchoir pour sécher ses yeux. « Quand j'étais très jeune, j'avais des rêves pour le futur. Je regrette que ma vie ait été la cause de tant de souffrances et de peines, et ce, pour autant de personnes, a-t-il ajouté avant d'implorer le juge. Au sortir de la salle, une fois les plaidoiries complétées, les parents d'Alexandre Bissonnette ont eux aussi tenu à s'adresser aux médias, à la population québécoise et à la communauté musulmane. J'aimerais d'abord faire part aux familles des victimes de toute notre compassion et de notre sympathie pour eux dans cette terrible et dure épreuve, a d'abord mentionné Raymond Bissonnette, qui se tenait droit aux côtés de son épouse Manon Marchand. Alexandre n'est pas un monstre. Les témoignages des psychiatres sont venus expliquer les causes probables de son geste, particulièrement l'intimidation subie durant des années à l'école, a-t-il enchaîné en ajoutant que l'intimidation débridée pouvait mener au suicide et même à des gestes violents. Commentant les représentations faites par la couronne, le père de famille a dit avoir de la difficulté à comprendre son attitude. Il a eu le sentiment qu'elle s'était acharnée à démoniser Alexandre par tous les moyens, afin d'obtenir un emprisonnement de 150 ans, soit la peine la plus sévère jamais donnée au Canada. Cela équivaut en soi à une peine de mort déguisée et éteint la moindre lueur d'espoir qui est source de la vie, a-t-il ajouté. C'est le 29 octobre qu'Alexandre Bissonnette connaîtra sa sentence. Un homme de 30 ans a été arrêté pour avoir renversé 32 pierres tombales dans le cimetière de l'Hôpital général de Québec en Basse-Ville. La police de Québec a reçu un appel d'un citoyen mercredi soir peu avant minuit indiquant qu'un homme s'adonnait à des activités de vandalisme à proximité du mausolée Montcalm situé boulevard Langelier. Selon le porte-parole David Poitras, les patrouilleurs ont rapidement localisé le suspect qui a aussitôt été arrêté pour méfaits de plus de 5 000 $. Au total, 32 pierres tombales ont été renversées. Une vingtaine d'entre elles ont été endommagées. Détenu, le contrevenant devait comparaître hier après-midi au Palais de justice de Québec. Un ex-entraîneur de l'École nationale de cirque, accusé d'avoir leurré et incité à des contacts sexuels, un ancien élève a finalement plaidé coupable à des accusations réduites, ce qui lui permettra d'éviter un long séjour en prison. « Oui », a dit d'une petite voix Marcelo Berti Marquez en plaidant coupable la semaine passée au Palais de justice de Montréal. Coco, une gorille devenue célèbre pour sa maîtrise du langage des signes, est morte avant-hier à 46 ans en Californie. Dès 1972, une jeune psychologue pour animaux, Francine Patterson, s'est mise à apprendre à Coco le langage des signes. La primate maîtrisa plus de 1000 mots et fera l'objet de nombreux reportages. Le ministère américain de la Santé a demandé au Pentagone de se préparer à héberger sur des bases militaires 20 000 enfants migrants entrés sur le territoire américain non accompagnés par des adultes, a indiqué un responsable américain. Il a été demandé au ministère de la Défense d'apporter son soutien au HHS, le ministère américain de la Santé, qui a requis 20 000 lits, a indiqué ce responsable ayant requis l'anonymat. Ces lits sont destinés aux enfants non accompagnés, a-t-il précisé. Dans son décret signé mercredi pour mettre un terme à la séparation à la frontière des familles de migrants clandestins, Donald Trump avait donné l'ordre au ministère de la Défense de mettre, si nécessaire, à disposition tout bâtiment pouvant être utilisé pour loger des migrants, voire de construire de nouvelles installations. La SAQ exigerait des économies de 30 millions de dollars dans ses magasins. Les syndiqués de la Société d'État pourraient déclencher une grève demain. La SAQ nous demande beaucoup de concessions. Nos membres sont donc très motivés, a indiqué hier au journal la présidente du Syndicat des employés de magasins de bureaux, SEMB, SAQ, Katia Lelièvre. Selon les données chiffrées par la partie syndicale, la Société d'État exigerait des reculs majeurs dans les acquis des employés de magasins et de bureaux afin de financer leurs propres augmentations salariales au cours des prochaines années.
Oh,
Hubert Lenoir, fille de personne, que tout le monde a dansé dans le studio.
Les journaux régionaux, Isabelle Légaré dans le Nouvelliste, la robe de Nancy, le bal de Patricia. Patricia Massé-Vizina, 17 ans, a toujours su que le jour venu, sa robe de bal serait noire avec une série de petites fleurs blanches sur toute sa longueur, dans toute sa splendeur. En 11 ans, la question ne s'est jamais posée. Ce vêtement était là, suspendu dans un placard de la maison, conservé précieusement dans son enveloppe d'origine, jamais porté. Même chose pour les bijoux en pierre du Rhin qui n'ont rien perdu de leur éclat. Ils sont demeurés dans un tiroir durant toutes ces années, jusqu'à ce que la nouvelle diplômée les sorte de leur boîte, fixe délicatement les boucles d'oreilles et attache le collier qui, comme par magie, s'est mis à briller autour de son cou. Patricia n'aurait pas pu choisir mieux que sa grande sœur, celle à qui tout ceci était initialement destiné. Nancy est décédée tragiquement à l'âge de 16 ans, 3 semaines avant son bal de fin d'études. 11 ans plus tard, sa robe vient de prendre vie grâce à sa petite sœur. Voici l'histoire de la journée parfaite de Patricia. Entrez, vous pouvez vous installer ici. C'est Patricia qui m'invite à m'asseoir dans la minuscule cuisine d'un casse-croûte à la sortie de l'autoroute 20 en direction de Saint-Louis de Blandford. Elle est visiblement chez elle ici, à la cantine La Patate à Patou. Patou, c'est pour Patricia. J'ai grandi dans la restauration. Tout sourire, l'adolescente presque adulte m'explique qu'elle est propriétaire de la place avec sa mère, Annie Vézina. Entre 2 clients à servir, la jeune femme me raconte ce bal mémorable qui lui a récemment été permis de vivre. Une journée de rêve pour celle qui n'avait que 7 ans lorsque son enfance a viré au cauchemar, avec la mort effroyable de sa grande sœur adorée. L'accident est survenu le 19 mai 2007 aux environs de 21h sur la route 261 à Sainte-Anne-du-Sault. Ma sœur s'en allait reconduire notre cousin Bobby à un party. La fille de 16 ans et le garçon de 15 ans sont décédés après que la voiture dans laquelle ils prenaient place eut été heurtée par un véhicule conduit à haute vitesse par un jeune homme en état d'ébriété. Sous la force de l'impact, l'automobile emboutie a pris feu. La petite Patricia était également en voiture avec ses parents lorsqu'ils ont croisé des véhicules d'urgence. Puis, au loin, un barrage routier, mais surtout de la fumée. Spontanément, Annie Vézina s'est arrêtée dans un dépanneur pour contacter sa fille Nancy qui avait quitté la maison plus tôt. Ça ne répondait pas. Ma mère capotait. Mon père s'est rendu sur les lieux de l'accident et c'est là qu'il a aperçu l'auto de ma sœur. Mon père ne nous a jamais dit ce qu'il avait vu, mais il n'a pas voulu qu'on s'approche, ma mère et moi. Patricia n'était qu'une fillette qui pensait avoir toute la vie pour fabriquer des souvenirs avec sa grande sœur. Témoin d'une scène impensable, son traumatisme a été grand. Même si à travers l'enquête de la police, le procès du chauffard et les inévitables étapes du deuil, la petite s'est efforcée de faire sourire sa mère qui a eu le même réflexe envers elle. Une question de survie. Jusqu'à l'âge de 11 ans, Patricia a dormi à côté du lit de ses parents. Il fallait que je sois proche de ma mère tout le temps. Petit à petit, elle a apprivoisé l'absence de cette grande sœur qui était à quelques semaines seulement de se transformer en une véritable princesse. Je n'avais pas le choix de grandir. Patricia vient de terminer son parcours scolaire à l'école secondaire Sainte-Anne à Daveu-Louisville. Pour la grande majorité des finissants, cette dernière année est un feu roulant d'événements, tous plus symboliques les uns que les autres, à commencer par l'obtention du permis de conduire. Au début, ma mère avait plus peur que je sorte, qu'il m'arrive quelque chose avant mon bal, que la même chose se reproduise. On peut la comprendre. Patricia, la première, se montre sensible à l'insécurité de sa mère qui l'embrasse chaque fois qu'elle quitte la maison. Cette fille est un ange, comme Nancy, une brune aux yeux bruns. Ma mère trouve que je ressemble à ma sœur. Personne ne l'a obligée à porter la robe de bal de celle-ci, mais pour Patricia, ça allait de soi. C'est ma décision et quand je l'ai enfilée, c'est comme si elle était faite pour moi. J'aimais ce que je voyais dans le miroir. Je me sentais belle. La jeune femme resplendit sous sa casquette aux couleurs de son casse-croûte. Les clients passent leurs commandes et elle est là, à prendre le temps de revenir dans le coin de la cuisine où je me trouve. Enthousiaste, l'adolescente me raconte comment sa journée de rêve s'est déroulée, à commencer par ce rendez-vous avec la coiffeuse, la même que Nancy. Son arrivée au bal dans un camion remorque rose, c'est l'idée de sa mère. Patricia a une véritable fascination pour cette couleur et son père, un ancien camionneur, lui a transmis sa passion pour ce type de véhicule lourd. Il fallait que je trouve quelque chose d'exceptionnel. Annie Vizina s'est installée devant son ordinateur, bien décidée à surprendre sa fille. J'ai perdu un enfant, je veux que ma fille ait un bal parfait. Je veux faire le maximum. Je n'ai pas pu le faire pour l'autre. C'est en gros ce qu'elle a écrit sur la page Facebook de Truck Stop Québec en espérant que quelqu'un quelque part allait donner suite à sa demande. Un couple de Saint-Jean-sur-Richelieu, Dominique Bessette et Karine Lemay, a répondu présent, de sorte que le 15 juin dernier, l'adolescente est arrivée à son bal à bord d'un semi-remorque rose vif et festif. J'étais comme une enfant, les yeux illuminés. Et tout au long de cette journée parfaite, Patricia a une pensée pour sa grande sœur à qui elle a tenu à écrire ceci. « Tu n'étais peut-être pas là, mais avec ta robe, je t'ai sentie près de moi. » Dans le droit des soins dentaires à la soupe populaire, Justine Mercier, qui signe le texte « Moi, j'ai déjà vu du monde s'arracher eux-mêmes les dents ici, sur le terrain de la soupe populaire de Hall ». Le directeur général de la soupe populaire de Hall, Michel Kazongo, a rapidement compris que le besoin pour des services dentaires communautaires était bien présent en Outaouais. C'est dans ce contexte que depuis le 5 octobre dernier, les sans-abri de la région ont accès à un nouveau service à même les locaux de la soupe populaire de Hall, à l'angle du boulevard des Allumetières et de la rue Saint-Rédempteur. La députée de Hall, Maryse Gaudreau, a annoncé jeudi que Québec avait octroyé un montant de 350 000 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour la mise sur pied de cette clinique dentaire communautaire ouverte 6 jours par mois. Cette enveloppe a notamment permis d'acheter l'équipement nécessaire tout en servant à rémunérer à taux horaire les dentistes qui y travaillent. Outre les examens dentaires, les patients peuvent y obtenir des radiographies, recevoir des prothèses ou y subir des extractions. Le grand patron du CI3SO, Jean Hébert, a indiqué que cette clinique unique au Québec a déjà enregistré près de 260 visites et de 80 personnes différentes. M. Hébert a précisé que les personnes vulnérables vivant ailleurs sur le territoire de la région peuvent aussi avoir accès aux services de la clinique dentaire communautaire, le réseau de la santé étant en mesure de leur fournir du transport. Pour Michel Kazongo, la clinique dentaire communautaire représente un grand cadeau, car les personnes qui se résignaient à s'arracher elles-mêmes les dents avec des pinces vivaient un réel calvaire, a-t-il mentionné. Jean Hébert note que, même si la Régie de l'assurance maladie du Québec couvre certains soins dentaires en cabinet pour les prestataires de l'aide sociale, très peu d'itinérants s'en prévalent. Les gens en itinérance ou à risque d'itinérance ne vont pas dans ces services-là, même s'ils sont offerts, a-t-il expliqué. Des fois, ils n'ont pas leur carte d'assurance maladie ou n'ont pas d'adresse fixe, donc le projet, justement, permet une identification. Même si tu n'as pas ta carte, tu vas avoir droit au service. Et dans la tribune, les enfants de l'école primaire Aymar ont vécu une expérience hors du commun cette année, celle de la naissance d'un livre. Aujourd'hui, grâce à l'auteur Marie-Soleil Roy et à l'illustratrice Gabrielle Grimard, ils co-signent le livre « Écrit Amour », une œuvre de fiction axée sur le vivre ensemble. Grâce au programme « Artistes à l'école » du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, les deux femmes ont réalisé une résidence de 8 semaines à l'école Aymar, là où le vivre ensemble prend tout son sens. En effet, plus de 15 élèves fréquentant l'école sont d'origine syrienne ou afghane, ce qui plonge l'ensemble des élèves dans une toute nouvelle réalité. Nourris par les enfants et leurs expériences, les deux artistes ont entrepris plusieurs ateliers et rencontres avec les classes. Surtout, vous avez su partager avec moi cette grande ouverture à l'autre, cette façon précieuse que vous avez d'accueillir ces petits êtres humains du monde, a écrit Marie-Soleil Roy dans sa dédicace aux élèves. La touchante œuvre raconte ainsi l'histoire d'un jeune garçon qui a dû quitter son pays. Comme souvenir, il emporte avec lui le mot « amour » et un petit bout de craie blanche, lit-on à l'arrière du livre. À travers le dessin, il embrasse peu à peu sa nouvelle terre d'accueil et son nouvel entourage, tissant des liens avec une jeune camarade. Isabelle Desmarais, enseignante à l'école Aymard, a été responsable de la réalisation du projet. « Quand j'affichais la feuille dans le salon du personnel disant que Marie-Soleil ou Gabriel venaient, les professeurs ne perdaient pas de temps pour inscrire leur classe », se réjouit-elle. C'est non seulement les idées de ces jeunes esprits, qui ont servi à la création du livre, mais aussi leurs dessins. Gabriel Grimard a réalisé les illustrations à même la bibliothèque de l'école, où les jeunes pouvaient l'observer, discuter ou dessiner avec elle.
Sleeping Bag, Danny Placard.
Portion culturelle, quand les arts visuels passent à table, un parcours propose une incursion gustative avec des plats inspirés des œuvres en exposition au Centre d'art Diane Dufresne, c'est dans le devoir d'aujourd'hui. Cahier 2, avez-vous déjà rêvé de goûter aux arômes subtils d'une aquarelle ou de vous mettre une sculpture sous la dent? Jusqu'à la fête du travail, ce sera chose possible à la table de 9 restaurateurs qui ont pignon sur rue au centre-ville de Repentigny. Ces derniers ont en effet accepté d'ajouter les arts visuels à leur menu et proposent une incursion gustative alliant l'art de la table à l'art tout court. C'est un article de Florence Sarah G. Ferraris. Développé en marge de Créer l'été des rencontres improbables, alors le titre c'est Créer l'été des rencontres improbables, l'exposition phare du Centre d'art Diane Dufresne qui sera présentée au long de la saison estivale à Repentigny. Le parcours gourmand propose aux amateurs d'art visuel de pousser la note juste un peu plus loin en goûtant un plat fortement inspiré d'une des œuvres. Au menu, une pizza aux accents pastels inspirée des 12 coups de pinceau de Michel Tremblay, un cocktail de crevettes décomposées rappelant l'univers créatif éclaté de Diane Dufresne, une ballotine de volaille et de foie gras aux allures d'une sculpture de Louis Furry. En tout, ce sont 9 restaurateurs dont les établissements sont tous situés à un jet de pierre de la galerie qui ont accepté de se prêter au jeu. Leur défi? Concevoir un mets inspiré de l'univers créatif d'un des artistes exposés, tout en s'harmonisant à son menu d'été. Les chefs cuisiniers que nous avons approchés étaient très enthousiastes, assure Catherine Gulliane Courtemanche, chef de division culture à la ville de Repentigny. Quand on les a approchés, ils ne savaient pas qui étaient les artistes et ils ont dit oui sans hésiter. On les a ensuite jumelés avec une œuvre et ils ont eu 2 semaines pour composer leur plat. Les inspirations sont d'ailleurs multiples. Si certaines créations culinaires reprennent les couleurs de la toile, d'autres tirent plutôt leur essence de l'histoire de l'artiste. D'autres encore rappellent les traits ou les techniques de l'œuvre qui leur a été attribuée. Offert à la carte, ces mets devraient permettre aux visiteurs de poursuivre leur expérience créative ou de mettre tranquillement la table avant qu'ils aillent faire un tour au centre d'art. Le but est de susciter la curiosité du public, expose celle qui s'est chargée de bâtir les ponts entre la galerie et les restaurateurs. D'une certaine manière, le but est de leur mettre l'eau à la bouche. Mise en bouche ou à côté gourmand, le parcours devrait ainsi mener les visiteurs jusqu'au centre d'art où l'exposition est présentée. Née dans la tête de Diane Dufresne elle-même, cette dernière propose au public un regard inédit sur le jardin secret créatif d'artistes bien connus du grand public. L'idée était de créer un parcours de leur talent artistique, sous un angle méconnu, et ce, peu importe leur discipline d'origine, souligne Catherine Gulliane Courtemanche, qui est également responsable du centre d'art. C'est une célébration de la créativité dans ses multiples facettes. Les photos de voyage éclectiques de Geneviève Borne, les gravures de Richard Séguin. En tout, ce sont les œuvres d'une 20aine d'artistes d'ici et d'ailleurs qui seront exposées à la galerie jusqu'aux limites de la saison estivale. Nous proposons ainsi aux gens de découvrir les artistes qu'ils aiment sous un nouvel angle, avance la chef de division. On espère que ce sera une belle surprise et qu'ensuite ils souhaiteront pousser l'expérience en dehors des murs du centre. À Parté Créatif, le Centre d'art Diane Dufresne propose une programmation axée sur son exposition estivale, Idées en vrac, au fil de l'eau, au fil des mots, rencontre littéraire avec Michel Tremblay et Alain Stanquet, au Parc Saint-Laurent, les 25 juin et 13 août à 19h, entrée gratuite. Nuit blanche avec Geneviève Borne, exposition, karaoké et atelier créatif au Centre d'art Diane Dufresne le 17 août, de 21h à 2h du matin, 5$, Parcours théâtral, découverte familiale de l'exposition au Centre Diane Dufresne, avec un personnage haut en couleur, les 6 et 7 juillet à 16h30, enfants gratuits. Et la boîte créative, création d'une œuvre d'art collective en plein air à l'espace culturel, du 5 juillet au 17 août, de 18h à 20h, et c'est gratuit. Après un périple pour s'exposer aux yeux des collectionneurs, dis-je bien, la tour Eiffel de Marc Chagall est de retour chez lui au Musée des beaux-arts du Canada. La toile avait fait les manchettes ce printemps lorsque le MBAC, le Musée des beaux-arts du Canada, avait annoncé son aliénation afin d'en acquérir une autre, Saint-Jérôme de Jacques-Louis David. Québec ayant envoyé un avis d'intention de classement du David dans la foulée, le MBAC, qui avait provoqué une levée de boucliers avec la mise en vente du Chagall, est revenu sur sa décision. Le tableau sera exposé à partir de samedi, demain, dans les salles d'art européens, aux côtés de la toile « Souvenirs de l'enfance » que Chagall a réalisée antérieurement. Les deux tableaux seront présentés jusqu'à l'hiver 2019, période durant laquelle la salle où ils se trouvent fera l'objet d'un entretien cyclique. Xavier Dolan se joint à la distribution de la suite du film d'horreur Ça, It, Chapter 2, dont le tournage se déroule à Toronto. L'acteur et réalisateur montréalais va incarner un personnage ouvertement gay nommé Adrian Millon, qui sera l'une des victimes du clown maléfique Pennywise. La distribution inclut l'acteur Bill Skarsgård dans le rôle du clown Pennywise, ainsi que Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, et un autre jeune acteur canadien, Finn Wolfhard, qui s'est fait connaître dans la populaire série Stranger Things. Le réalisateur Andy Muschietti, qui a tourné le premier volet, sera de retour derrière la caméra pour le deuxième chapitre, attendu en septembre 2019. Section ici et là dans le cahier week-end du devoir, pas n'importe quel vendredi soir. Oui, 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 c'est la longue fin de semaine de la fête nationale. On sent déjà monter la frénésie du traditionnel medley des grands succès de Plume, Claude Léveillé, Marjo, pas vrai? Voici quelques suggestions pour éviter la surdose de Bob Épine d'ici à dimanche. Pour bien amorcer le week-end, les jeunes fous du festival Soir, Soir écrit en majuscule, en lettres majuscules, qui ont déjà sévi dans Hochelaga-Maisonneuve et dans la Petite Patrie à Montréal, prennent d'assaut le plateau. Encore une fois, artistes visuels, musiciens, expos et performances multidisciplinaires élisent domicile chez les commerçants le temps d'une nuit. Soir, plateau, c'est aujourd'hui, de 17h jusqu'à demain matin 3h, le long de l'avenue du Mont-Royal, accès gratuit. Pour plus d'informations, soirmtl.com. Longue vie à notre immortel. D'abord présentée à la librairie Monet à Montréal, l'exposition entourant la sortie du dernier livre ou du plus récent livre de Dany Laferrière s'installe à la très belle Maison de la littérature à Québec. Percée dans l'univers de l'auteur, l'exposition montre le Paris des artistes, des cafés, du vin et des chats. On peut aussi y consulter la bibliothèque idéale de M. Laferrière, un hommage à la Ville-Lumière donc, mais aussi à celui qui nous fait tant voyager avec ses mots pleins d'humour. Exposition « Autoportrait de Paris avec chat » à la Maison de la littérature jusqu'au 31 juillet. Et l'accès est gratuit. À la fois symbole et grand mystère, Habitat 67 est connu dans le monde comme une prouesse architecturale. Mais de quoi ça peut bien avoir l'air à l'intérieur? C'est l'occasion de le découvrir alors que les deux prochains jours fériés, les lundis, on tient des visites guidées spéciales. Celles-ci ont habituellement lieu en semaine. Visite guidée d'Habitat 67, donc les lundis 25 juin et 2 juillet à 10h ou 13h, point de départ à l'entrée principale du complexe, 2600 rue Pierre-Dupuis, 25 $, réservation obligatoire, habitat67.org. J'ai fait la visite l'année dernière dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et j'avais beaucoup aimé cela. Et pour terminer, la journaliste Emmanuelle Latraverse n'est plus employée de Radio-Canada. Dans une note interne, le directeur de l'information, Michel Cormier, a annoncé qu'elle quitte le diffuseur public pour des raisons personnelles. Pour sa part, la journaliste a déclaré sur Twitter quitter la Tour Brune pour découvrir de nouveaux horizons.
Assis près de la fenêtre, donnant sur la cour, je suis seul et c'est la fête de mon premier jour. Aujourd'hui, j'ai l'habitude, après tant d'années, car pour moi la solitude, c'est vivre au passé. J'ai mémoire d'une tante qui venait chez nous m'offrir des sucres de menthe avec Marie-Lou. Marie-Lou, c'est la cousine que je préférais. C'était mon cadeau intime, rubané de soie. Il y avait l'oncle Diogène qui faisait de nœuds autour d'un mouchoir de Seine en clignant des yeux. J'avais le geste rapide, mais mon oncle aussi questionnait d'un œil avide, qu'est-ce qu'on dit merci. Alors je croquais mes membres en comptant mes sous, pendant que l'oncle et la tante cherchaient Marie-Lou. Marie-Lou, c'est la cousine que je préférais. C'était mon cadeau intime, rubané de soie, deux fois. Marie-Lou collait sa bouche contre les carreaux, sur des nuages de soufre, m'écrivait des mots qui, si je résume, puisqu'image vaut 10 000 petits cœurs de brume au châssis d'en haut. Assis près de la fenêtre, donnant sur la cour, je suis seul et c'est la fête de mon premier jour. J'offre mon cadeau intime, devenu chanson, à Marie-Lou, ma cousine, souple de bonbons.
Plume la traverse, qui nous chantait Marie-Lou. Eh oui, une Saint-Jean sans plume, ce n'est pas une Saint-Jean.
Et nous restons dans le thème, la fête nationale en ville, agenda du week-end dans le Journal de Montréal, section sortir. Samedi, dès 13h à la place des festivals, on pourra voir la répétition générale du spectacle de la soirée. À 19h30, on dansera au son de la musique traditionnelle avec le groupe Le Vent du Nord. À 21h, le grand spectacle sera animé par Guillaume Lemaitie-Vierge, qui sera entouré de Claude Dubois, Michel Rivard, Brigitte Boisjoli, Vincent Vallière, Marie-Josée Laure, Claude Pelgague, Le Vent du Nord, Jean-Marc Couture, Martha Wainwright, Kim Richardson et Seba et Orgue. Thank you. Et dimanche, c'est la soirée du grand défilé, la rencontre des vents. Rendez-vous donc à 18h à la place des festivals pour entendre les Poules à Colin, Comté de Clare et le Diable à 5. À 21h15, le défilé Le Suroît partira des rues Peel et de Maisonneuve pour se rendre à la place des festivals, tandis que le défilé Le Nord et partira des rues Saint-Denis et de Maisonneuve pour se rendre aussi à la place des festivals. Alors, c'est le défilé, l'autre défilé s'appelle le Nordais. Le point de rencontre aura lieu à 22h30 et on dansera jusqu'à minuit. Ensuite, la fête nationale à Laval, encore dimanche, au centre de la fête, au centre de la nature de Laval. La fête commence à 10h le matin. Et le soir, à compter de 21h, Daniel Bélanger, Diane Dufresne, Vincent Vallière, Claude Pelgag, Émile Bilodeau, Random Recipe, Marc Derry, France D'Amour, Antoine Corriveau, Berries, Africana Soul Sister, Mathieu, Kim, Tui et Neve nous offriront un grand spectacle. Ils seront accompagnés par le chœur des petits chanteurs de Laval. Vous êtes plutôt local et souhaitez fêter en famille? Bien, ça tombe bien, puisque 100 fêtes sont organisées dans les parcs de Montréal et de Laval, ainsi que dans tout le Québec. Dans le sud-ouest, rue Notre-Dame, samedi dès 10h, ce sera la foire commerciale à 15h. Maria Canelloni à 17h. Damien Robitaille. Ça continuera toute la soirée jusqu'à mon oncle Serge à 23h30. Dans Villeray, samedi au Parc Jarry, il y aura plusieurs activités pour la famille et à 22h, Locolocas sera en spectacle dans le stade. À la Chine, dimanche, dans le Parc Saint-Louis, le groupe Mordicus sera en spectacle à 20h, Alex Nevsky à 21h30. Pour savoir ce qui se passe dans votre quartier, bien, vous consultez le site à l'onglet « Découvrir la programmation » www.fetenationale-montréal.qc.ca /fête au pluriel /quartier. Et si vous préférez être devant votre téléviseur, même si se tiennent en même temps les deux grands spectacles de la fête nationale ont l'avantage de ne pas être télédiffusés le même soir, de quoi célébrer en double et au sec, grand spectacle de la fête nationale dans la capitale à Télé-Québec, samedi, 21h30, et grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal, Radio-Canada, dimanche, 20h. Alors, on en parle beaucoup de ce nouveau film de Denis Arcand. Marc-André Lucier a rencontré Denis Arcand et Marie-Pierre Morin. L'annonce de l'embauche de Marie-Pierre Morin pour le premier rôle féminin de la chute de l'Empire américain avait suscité l'étonnement auprès des uns et carrément du scepticisme auprès des autres. Nous avons réuni le cinéaste et sa vedette pour une entrevue croisée. Question Denis, on trouve cette citation sur le coffret DVD que l'Office national du film a consacré à vos documentaires il y a plusieurs années. J'ai toujours été une tête forte, un iconoclaste et un anarchiste. Ça correspond toujours à ce que vous êtes? Réponse, Denis Arcand, probablement oui, malgré la réputation qu'on m'a faite de m'être embourgeoisé. Marie-Pierre Morin, t'es assez loose cannon, électron libre quand même. T'as pas beaucoup de filtres, autant dans ton propos que dans tes idées. C'est peut-être ce qui fait qu'on s'entend si bien. Alors, Denis Arcand, peut-être, c'est vrai qu'on s'est bien entendu immédiatement. La première fois que j'ai vu Marie-Pierre, c'était dans un contexte qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Elle était venue m'interviewer à l'époque où elle était de l'émission du matin à V. Et moi, j'étais le porte-parole du tournoi de la Coupe Rogers. Comme son caméraman était en retard, on a eu le temps de jaser un peu. La conversation était agréable et à un moment donné, le soleil s'est placé d'une façon qui a fait ressortir la couleur de ses yeux. Au cinéma, il n'y a rien de plus payant. Quand est venu le moment de penser à une actrice pour mon film, je me suis dit que Marie-Pierre savait peut-être jouer. Je ne lui ai rien promis, mais je lui ai dit que si elle avait envie d'essayer, j'étais prêt à la recevoir en audition. Marie-Pierre, j'étais un peu confuse parce que la façon dont il me parlait, je pensais qu'il voulait que je fasse des entrevues sans savoir où les diffuser puisque je ne participais à aucune émission de ce genre. Jamais je n'aurais pu penser que Denis Arcand puisse m'appeler pour jouer un rôle. Quand je me suis rendu compte qu'il voulait que j'auditionne, j'ai été encore plus mélangée. Juste auditionner, c'était déjà énorme à mes yeux. Quand il m'a rappelé pour une deuxième audition, je me suis mise à vraiment vouloir le rôle. Et à la troisième, j'aurais été vraiment triste de ne pas l'avoir. Denis Arcand, Marie-Pierre est allée voir une actrice professionnelle pour répéter avec elle avant de passer son audition. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Le fait qu'elle arrive archi-préparée, prête à jouer les virgules, c'était déjà convaincant. Elle s'est classée parmi les bonnes à la première audition, mais je n'ai pas été vendue tout de suite. À la deuxième, elle était encore parmi les meilleures. À la troisième, j'ai pris ma décision. J'avais d'autant plus confiance que j'ai déjà connu deux expériences semblables avec des actrices, Céline Lomès dans Gina et Jessica Paré pour Stardom. Dans ces cas-là, mon rôle est de gagner leur confiance à mon tour. Une fois cela fait, on peut aller au bout du monde ensemble. Marie-Pierre, c'était comme si j'étais un canevas blanc. Je n'avais pas de mauvais plis. Denis, c'est vrai que parfois avec des acteurs qui ont l'expérience de la télévision, par exemple, des habitudes se sont créées et deviennent plus difficiles à défaire. Ou alors de simples habitudes de jeu. Des gens comme Rémi Girard ou Pierre Curzi savent tellement bien ce qu'ils font que je n'ai pas besoin de m'occuper d'eux. Alexandre Landry est un acteur d'expérience aussi. Cela m'a permis de concentrer davantage mon attention sur Marie-Pierre. Si j'avais eu quatre débutants devant moi, ça aurait été sans doute différent. Marie-Pierre, j'ai travaillé avec Joanne-Marie Tremblay, qui a joué dans quatre films d'Arcand, pendant 2 mois et demi. Grâce à elle, j'étais vraiment prête. C'était comme un crash course de Denis Arcand. Tous les films étaient connectés dans ma tête. C'est une grande chance de comprendre vraiment la vision du réalisateur, d'autant que je suis une freak de la préparation. Je trouvais que c'était nécessaire de voir l'œuvre de Denis au complet, surtout les plus vieux films, comprendre l'avant pour bien interpréter le présent. Les Invasions barbares, que j'ai vu à sa sortie avec mes parents, a été l'un des premiers films marquants de ma vie. Un des premiers qui m'a fait aimer le cinéma québécois aussi. Et ça se poursuit. Donc, La chute de l'Empire américain prendra l'affiche le 28 juin. Avis aux intéressés. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite un beau long congé, si c'est votre cas. Nous serons de retour mardi prochain, puisque lundi, c'est congé. Hein? C'est la Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, amusez-vous bien, profitez-en bien. Soyez toujours prudents et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical.